chronique livre sur Radio PFM 99.9, la chronique 1000 et une pages proposée chaque semaine à distance par Frédéric. Au moment où l'on offre un peu plus de beaux livres, les fêtes arrivant, tu en as choisi Frédéric, qui nous raconte que la vie d'une œuvre d'art est très très loin d'être un long fleuve tranquille. Même si l'artiste qu'il a créé était de son vivant déjà reconnu et parfois même célèbre.
Et il y a, mon cher Nico, plusieurs raisons à cela. Dans un livre totalement passionnant, une journaliste, Sophie Pujas, qui est par ailleurs romancière également et scénariste, nous raconte l'histoire de chefs-d'œuvre disparus. C'est publié chez Hoebuck et il y a un sous-titre. Peut-être un tout petit peu pessimiste, parce que c'est formulé ainsi. Ces trésors que vous ne verrez plus jamais. Plus jamais est un tout petit peu fort, parce que pour un certain nombre des tableaux dont elle nous parle, pour un en particulier auquel je pense de façon très précise, on va y revenir dans un instant, peut-être qu'on les reverra. Peut-être qu'ils n'ont pas été complètement perdus. En particulier, par exemple, je pourrais vous parler du portrait du docteur Gachet par Van Gogh. Celui-ci est dans un coffre en Suisse et pour l'instant il sort pas de là, même pour la grande exposition qui a eu lieu sur, au musée d'Orsay à propos d'Auvers et du travail de Van Gogh dans ce petit village. Eh ben il est pas sorti, on sait pas trop comment il a été vendu au début de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, donc il préfère le planquer. Un autre qui lui a été volé au musée d'Oxford, pareil, qui a été peint à Auvers-sur-Oise mais par Cézanne. Pissarro qui l'a vu le regarde complètement émerveillé, avec une palette très éclaircie, une patte plus légère. Elle nous raconte tout ça de façon très précise. Vigueur et force remarquable, notez Pissarro, pour nous raconter ce tableau qui, lui, volé à l'université d'Oxford. Les voleurs ont profité d'un échafaudage qui avait été mis là en place pour réparer un peu la bibliothèque. Ça a pris juste quelques minutes et le tableau a disparu. Pour l'instant, on ne le revoit pas. Il faut dire que des causes à l'origine de la disparition d'œuvres d'art, il y en a une longue liste. Hein. Brisées lors du pillage d'un musée, ça c'était en 2003 à Bagdad, tombées dans poussière, perdues, détruites à l'explosif parfois par les talibans. Inondation à Florence, pour ne parler que de celle de mon année de naissance, bombardées, volées, brisées lors de furies iconoclastes. Et là, on va ouvrir une petite parenthèse en précisant que nos chers amis les chrétiens sont loin d'être les derniers hein, pour massacrer les œuvres d'art. Ça s'est un petit peu calmé, mais il y a eu une période difficile. Je suis pas sûr qu'on ait tout de suite un grand documentaire sur les chaînes de Bolloré là-dessus, mais ça a été hein, déchiré, détruit par les artistes eux-mêmes. Monet en a détruit un nombre incalculable. Mais il faut bien reconnaître que à travers ce que nous raconte Sophie Pujas, on a vraiment un catalogue complet de tout ce que doivent traverser les œuvres d'art pour essayer d'intégrer des musées. Entre 1520 et 1620, en un siècle, on passe de 1 à 10 musées. Les siècles suivants, voire les décennies suivantes, sont parfois beaucoup, beaucoup plus productifs pour donner une idée. Entre 1960 et 2010, on est passé de 10 000 à 80 000 musées. Il est certain que si Javier Millet, ou encore, pour ne pas prendre seulement à l'étranger, cette formidable Christine Morançais restait au pouvoir un petit peu longtemps, la culture aurait du souci à se faire et probablement les musées auraient aussi un gros, gros, gros souci à se faire. Mais par-delà tout ça, il faut bien reconnaître aussi, pour se rebrancher sur l'actualité, que si on regarde du côté du Palazzo Real jusqu'au 26 janvier, il y a 80 chefs-d'œuvre qui ont été soit achetés avec de l'argent sale par la mafia, en l'occurrence là c'est la mafia calabraise, qui servent aussi de monnaie d'échange ou de garantie. Là on les a récupérés, la police fait son travail et ils ont fait une grande exposition qui ensuite sera d'ailleurs proposée aussi en Calabre. À propos de grands tableaux disparus et de mafia, c'est difficile de ne pas parler de celui qui s'intitule Nativité avec Saint François et Saint Laurent. Ça a été volé à Palerme et c'est un Caravage. Et c'est l'autre livre dont je veux vous parler, Le Caravage de Roberto Longhi, c'est publié aux éditions du Regard. Et c'est aussi peut-être une façon de voir des œuvres d'art extrêmement connu disparaître au sortir de sa vie, le brave Caravage perd largement de son lustre, même s'il influence beaucoup les artistes après lui. Mais il faut bien reconnaître, et Dominique Fernandez me l'avait raconté, alors qu'il était jeune étudiant et qu'il se retrouve à Rome, il va à l'église Saint-Louis des Français, et il m'a dit, tu sais Frédéric, il n'y avait pas trop de monde dans l'église, on avait bien de la place. Et c'est évidemment ce formidable historien d'art qui est Roberto Longhi, à travers une exposition qui a lieu en 1951, encore à Milan, il va remettre le Caravage au centre de l'échiquier, si j'ose dire. Et c'est sa vie, son travail, qui sont racontés dans ce formidable ouvrage qui réunit un texte qui avait déjà paru chez Gallimard, mais plein d'autres textes fascinants sur tout ce qu'il sait sur le Caravage, sur la façon dont l'ombre prend les corps, la façon dont il les peint. Il est même capable de dire qui vient boire un coup le soir dans les tavernes avec le fameux Michelangelo Merisi. C'est fascinant. Vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Et cela nous parle aussi de ces artistes qui, bien qu'ayant été, comme tu le disais, très, très connus de leur vivant, très, très recherchés, ont aussi eu des passages à vide, des traversées du désert pour redevenir aussi essentiels, aussi recherchés qu'ils le sont. Et les historiens d'art n'y sont pas pour rien. Le Caravage, Roberto Longhi aux éditions du Regard et Chef-d'œuvre disparu, de Sophie Pujas, c'est publié, ça, chez Webeck. Voilà pour cette semaine, Nico.
Frédéric, merci. Retrouvez la chronique 1001 pages chaque semaine sur les ondes de PFM 99.9, en ligne, radiopfm.com.